relire. À quoi ça sert finalement?
À quoi bon?
Ouais, franchement, enfin, quand même, ça fait un peu voyager.
Et puis, ça fait rêver.
Ça ouvre les fenêtres et l'esprit.
Ça rend plus fort.
Ah ouais, tu crois vraiment?
Non, je suis pas sûr sur celui-là.
Peut-être ça élargit la vision qu'on peut avoir du monde, tu crois pas?
Ah bah ça c'est sûr.
Ouais. Et puis, tu crois que ça rend plus beau?
Eh ben je sais pas, il faudrait essayer peut-être.
Ah, il faut essayer. Mais surtout, lire des livres. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, ici Paz, on se retrouve pour un lire des livres, D-E-L-I-V-R-E, en compagnie de Stéphanie Chollo. Alors pour un de ses livres intitulé Le voyage en terre rouge, bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors ben, je vais vous laisser vous présenter d'abord.
Eh bien je suis Stéphanie Chollo, je suis auteure et éditrice, on va garder ces deux casquettes-là pour aujourd'hui.
Ah, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres, mais on ne va pas en parler. Donc, auteur et éditrice. Et auteur, donc, pas depuis ce livre-là, puisqu'il y en a eu trois autres avant. Est-ce que vous voulez bien en dire quelques mots, s'il vous plaît?
Oui, j'ai commencé à écrire en 2007, donc ça commence à dater. Un premier roman, un roman contemporain, que j'ai publié dans une maison d'édition. Et puis, j'ai continué avec un polar fantastique. Et bon, j'ai commis quelques petits trucs entre. Et puis, les derniers, c'était un petit conte. Et enfin, dernièrement, Voyage en Terre Rouge, donc un livre de voyage sur Madagascar, que j'ai coécrit. Et les contes urbains, contes anodins, qui sont encore dans l'esprit du conte. Voilà.
Alors, les deux derniers, Brefs de jour et contes urbains, sont aux éditions Yuka.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez en dire aussi quelques mots? On les connaît déjà, mais c'est toujours bien de parler des éditeurs locaux.
Donc, Yuka Édition, c'est une maison d'édition carmosine qui a été créée en 2013. On a fêté nos 6 ans il n'y a pas longtemps. Et du coup, on publie du jeunesse, voyage, polar et découverte. Voyage, c'est vraiment tout récent.
Alors, quand vous dites on a créé, c'est plusieurs personnes?
Oui, bah, tous des amoureux du livre. Voilà, il y a aussi Simon Brandly qui a coécrit le livre avec moi. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment passionnées de littérature. Puis, il y a pas mal de gens qui sont très impliqués, comme Daniel Pagès, qui est aussi auteur chez nous.
Voilà, on va essayer de se recentrer un petit peu, hein, pour l'instant, sur celui-là, sur le voyage en Terre Rouge. Donc c'est un voyage que vous avez fait à deux avec Simon. Je vais me permettre d'utiliser que les prénoms, hein, je rappellerai vos noms après. Il y a déjà de ça quelques années, puisque c'était en 2010.
C'est ça.
Et ce livre est paru en 2018.
Oui.
Alors expliquez-nous un peu la genèse de ce livre.
Alors on avait fait 300 pages de notes chacun à l'époque, et on avait mis ça de côté en se disant qu'on écrirait un livre quand on aurait le temps. Le temps, on n'en a pas forcément tout le temps, surtout avec la vie. Et puis, en fait, ce qui nous a vraiment décidé, c'est il y a quelques mois de ça. Alors, on avait continué à travailler le livre progressivement. Et puis, on s'est dit, bon, maintenant, c'est trop tard. Et en fait, non, pas du tout, parce que les protagonistes, notamment les candidats à la présidentielle, etc., dont on parle dans le livre, c'est exactement les mêmes qui se sont présentés aux élections en novembre dernier. Donc on avait une impression presque de déjà-vu, donc on s'est dit qu'en fait notre livre était totalement d'actualité. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon ben oui, en fait on peut le sortir.
Alors ce livre, moi je l'ai abordé plutôt comme un carnet de voyage. Est-ce que ce terme vous convient pour votre livre?
Tout à fait, c'est exactement ça. En fait c'est des notes, bon après on a lissé les deux styles, etc. Mais on part d'un carnet de voyage, oui. C'est vraiment, on a noté, on a même essayé de pas trop dire que tout était joli ou tout était... voilà. On a mis tout notre ressenti et ce qu'on voyait, ce qu'on vivait au jour le jour et avec nos tripes, si je puis dire.
Alors dites-nous un peu, donc vous connaissiez déjà Madagascar, par contre votre compagnon, je pense qu'il n'y était pas encore allé, mais il avait déjà voyagé
C'est ça.
Pas mal. Donc voilà, vous, avant de partir, vous décidez de créer une association et vous dites qui nous ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire une...
Oui, parce qu'on ne voulait pas faire un voyage pour faire un voyage. On voulait vraiment, déjà Madagascar, c'est pas du all inclusive, c'est pas une croisière, c'est quand même un pays du tiers monde, donc on peut pas y aller sans rien. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on ait une structure autour, qu'on ait un projet, qu'on ait quelque chose qui nous porte un peu. Donc on a créé une association, avec nous. Et le but, c'était vraiment de créer des partenariats avec d'autres associations, de voir aussi pour travailler avec des écoles en France, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui ressorte de ce voyage. Et ça s'est fait. Mmh. Voilà, puisqu'on est à notre retour, on est intervenu plusieurs fois dans des écoles un peu partout en France, qui nous suivaient en fait pendant le voyage.
Voilà. Et sur place, est-ce que vous avez réussi à faire des choses avec des écoles locales ?
Alors ça a été compliqué. On a fait des petites actions. On a fait pas mal de reportages purs où on essayait d'étudier aussi comment ils fonctionnaient, comment ils marchaient, etc. Parce que on était un peu des bébés là-bas, il fallait tout réapprendre. Et après, oui, on a essayé de mettre en place quelques petites choses. Ça a été assez compliqué parce que, en fait, les écoles publiques sont très pauvres, donc elles n'ont absolument aucun moyen pour faire de la correspondance avec la France, par exemple. On a travaillé sur des écoles privées qui avaient un peu plus de moyens et puis un ordinateur. Et du coup, on a créé des ébauches. Il y a eu un petit suivi au début. Puis bon, forcément, c'est très loin, c'est très compliqué, donc ça n'a pas perduré. Mais il y a eu quand même une petite émulsion. Et après, nous, on a fait aussi pas mal de petits de rencontres, de rendus par rapport à ce qui s'était passé. Voilà. Pour parler aussi des associations avec lesquelles on a travaillé. On a travaillé aussi avec une association qui fait de l'acrobranche. Ça peut paraître bateau en France, mais là-bas c'est très important parce que ça évite aux gens déjà de couper les arbres. Il y a vraiment tout un programme de préservation de l'environnement autour de cette association-là. Donc c'est pareil, on a participé en tant que bénévole. Donc on a fait plein de petites choses comme ça. Voilà, on faisait du troc, on essayait de pas donner sans rien en retour, parce que sinon ça incite à la mendicité. Enfin, on a essayé de faire plein de petites choses en fait.
Mmh. Bon, et sur place, vous connaissiez des gens aussi, vous avez logé assez souvent, oui, chez des personnes de...
Alors, on a commencé en fait, on a commencé chez des gens qu'on ne connaissait pas du tout, mais qu'on nous avait conseillés. Et on a fait aussi un court séjour dans le nord chez mon oncle. Alors moi, je ne connaissais pas Madagascar, j'y avais jamais été avant. Hein. Mais par contre, j'avais de la famille, effectivement. Donc c'était l'occasion de les voir et de les rencontrer, parce que je ne connaissais pas tout le monde. Et à partir de là, en fait, on a fait marcher le bouche à oreille, le réseau, en fait. Et on allait dans des familles et chez des gens qu'on nous conseillait. Voilà, donc on a essayé d'être au plus près de la population avec nos propres moyens et notre réseau.
Alors bon, effectivement, j'avais cru comprendre que vous y étiez allé, parce que vous parlez de votre papa qui était allé pour y chercher du travail.
Oui, il y est allé tout seul.
Ah, il est allé sans vous, d'accord. Mais sans doute, quand à son retour, il a su tellement en parler que vous avez eu envie d'y aller.
C'est ça. Mais en fait, il est revenu avec un carnet de voyage, lui aussi. Parce qu'il a vraiment été... Enfin, c'est un pays, de toute façon, soit on aime, soit on n'aime pas, mais on ne peut pas être indifférent. Donc du coup, il avait été vraiment très marqué par ce voyage. Et puis moi, j'avais toujours cet esprit un peu aventurière, un peu la bougeotte. J'avais vraiment la bougeotte. Et du coup, mon oncle m'a dit « Bon, la prochaine, c'est toi ». Donc je l'ai pris au mot et j'ai tenu parole.
Mmh.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui vous a le plus, comme vous n'y étiez jamais allé, qu'est-ce qui vous a le plus déstabilisé, surprise?
On peut dire tout.
Oui.
Parce que c'est vraiment, il y a rien qui est pareil. Mmh. Dès l'aéroport, déjà, on a accueilli en Kalachnikov, bon, maintenant en France aussi, mais c'est vraiment pas pareil. On peut pas photographier les avions, on peut rien faire. On a aussi toute cette troupe de taximans qui arrivent et qui nous assaillent, etc. Donc dès l'aéroport, en fait, on est vraiment dans un autre monde. Le rythme, ils sont très doucement, ils disent mour-amour. Donc ils sont dans un rythme complètement différent pour se nourrir aussi, pour acheter la nourriture, etc. C'est pas le supermarché du coin, c'est le marché, il faut savoir parler un petit peu malgache, il faut savoir négocier les prix. Donc on a vraiment tout tout réappris, de comment se déplacer, à comment se nourrir, à vraiment tout.
Alors les déplacements, ça c'est assez épique aussi au début. Hein.
Ah oui, à la fin c'était bien. Mmh. Au début, oui, on a eu le plus mémorable, je pense, c'est notre premier gros déplacement, donc de la capitale au nord du pays, où on a mis, je ne sais plus, 36 heures ou quelque chose comme ça pour se déplacer pour un trajet qu'en France on fait en à peine 10 heures. Là-bas, on a mis 36 heures et puis bon, c'est pareil, on connaissait pas les codes, il y a pas une aire de repos avec une cafétéria qui nous attend et c'était vraiment, fallait aller chez les gens pour manger, enfin on comprenait rien et du coup, on a passé pas mal de repas comme ça à ne pas manger et au final, oui, on est arrivé épuisé et on a été récupéré sain et sauf par mon cousin qui était désespéré par la durée du trajet. Parce que le taxi Bruce voulait plus avancer, il était vide, il y avait plus que nous. Donc on s'est dit on va jamais y arriver. Donc il m'a dit vous êtes à combien de temps de moi? Je lui ai dit bon ça doit être à peu près à 2 heures là maintenant. On n'est plus qu'à 2 heures. Il fait bon bah, je viens vous chercher parce que vous allez jamais arriver. Donc ça c'est vrai, ça c'est vraiment notre voyage le plus épique. Et puis les conditions aussi, on était je sais plus combien dans un bus, enfin d'un bus une camionnette, je sais pas, il devait y avoir 15 places, on était à 25 dedans. La plupart du temps on était assis sur les ferrailles du siège. Enfin c'était vraiment épique comme voyage. Mmh.
Et est-ce que vous avez rencontré, donc à part dans les écoles, vous avez réussi à établir des échanges naturels avec des malgaches ?
Oui, on en a eu plein. Bon, au début, c'est pareil, on a eu du mal un peu à parler. Et puis ça s'est fait progressivement en fait. Bon déjà les malgaches, on était un peu dans certains endroits un peu des curiosités parce qu'ils avaient pas, ils voyaient pas souvent des blancs. Et du coup, ben petit à petit, on s'est déridé, si je puis dire, et on a commencé à parler avec eux, à discuter, etc. Et oui, et plus on discutait avec eux, on le retranscrit dans le livre. Plus on discutait avec eux, plus on apprenait leur façon de faire et leur logique aussi du style. Ben en France, on est riche parce que ils le voient à la télé. Et puis on a la Tour Eiffel. Hein. Si on a des trucs qui servent à rien, c'est forcément qu'on a de l'argent à dépenser. Et c'est vrai que petit à petit, voilà, on a recueilli plein d'anecdotes en discutant avec les gens, en s'ouvrant en fait tout simplement hein, aux gens. Et puis on a discuté, ben, ça allait des enfants dans la rue, aux gens qu'on croisait, ou ben, quand on voyage aussi en taxi Bruce pendant longtemps, on finit par sympathiser aussi avec les gens qui nous entourent. Donc on a plein de petites anecdotes comme ça.
Mmh, mmh. Est-ce que vous avez filmé ? Ça c'est une question qui n'a rien à voir avec le livre.
On a pris, je ne sais plus, 3500 photos. Et on a filmé, oui, quelques petits trucs épiques, un peu, voilà, bon, les lémuriens, on a filmé aussi, ben, quand le taxi Bruce, qui va jusqu'à Tamatave, en 4x4, mais type 4x4 Paris-Dakar, nous entraîne sur des pistes qui n'existent pas, on a filmé des petites choses vraiment qui nous semblaient incroyables, quoi.
Alors les lémuriens, donc vous êtes allés tous les deux dans ce qu'on pourrait qualifier de jungle, enfin des zones préservées, hein. Ah là, en espérant rencontrer des lémuriens, donc animaux qu'on ne trouve que là-bas.
Oui, parce que Simon est écologue à la base, donc du coup on avait une sensibilisation à la biodiversité dès le début. Et l'objectif c'était vraiment de découvrir toute cette biodiversité, surtout que c'est absolument pas comparable à Madagascar, à la France, pardon. Et au niveau de la biodiversité, oui, c'est des jungles, puisque c'est des forêts primaires, et que très souvent, dans certains endroits où on est allé, il y a que des scientifiques qui vont, donc c'est vraiment ça. Voilà. Et on est obligé d'y aller avec un guide, sinon on s'y perd.
Oui, donc vous aviez un guide, vous aviez aussi nécessité de rapporter des vivres,
oui.
Et vous aviez un cuisinier.
Oui, alors bon, ça, on s'est rendu compte que c'était du superflu, c'est parce qu'on est des Blancs, donc ils nous ont imposé un peu un cuisinier. Mais par contre, le guide était nécessaire. Bah, déjà parce qu'il y a des réglementations spécifiques, malgré tout, et qu'on ne peut pas y aller sans autorisation ou comme ça, en touriste. Donc du coup, les guides étaient obligatoires. Et puis de toute façon, en pleine jungle, c'est pas possible de se tromper. Enfin, on se tromperait, on serait jamais rentré, en fait. Donc c'était indispensable.
Ah, est-ce que vous pouvez relater un peu cette expérience ?
Je crois que la plus mémorable, c'est Marjej. C'est donc forêt tropicale humide, 3 jours de marche pour voir le lémurien blanc. Le lémurien blanc, il n'y en a plus que 7 dans le monde entier. De toute façon, les lémuriens, il n'y en a quasiment qu'à Madagascar. Il n'y en a plus que 7. Donc, du coup, on nous a dit oui. Alors, pour les voir, il faut 2-3 jours de marche. Donc, 3 jours de marche en pleine jungle, on était trempés de sueur, attaqués par les sangsues aussi qui nous tombaient dessus. Je crois qu'à un moment, Simon, il en avait 8 sur lui. C'était épouvantable. Et puis le dernier jour d'épuisement, moi j'en pouvais plus, j'étais trempée, j'avais une sangsue qui, enfin j'arrivais pas à m'en débarrasser, je glisse, je tombe sur un arbre épineux, enfin j'en pouvais vraiment plus, et là j'ai réussi, bon Simon m'a pas mal motivée pour me dire bon allez vas-y on y est presque là, donc ça fait 3 jours que tu marches, que ce soit pas pour rien. Et là oui, là on les a aperçus parce qu'on avait un guide super qui savait comment faire pour les pister. Et je crois que ça a vraiment été un moment magique parce que découvrir ce gros nounours blanc là qui nous regardait alors qu'on pensait vraiment ne plus y arriver, ça a été, voilà, je pense que c'est à ce moment-là où on a vraiment découvert toute la magie de Madagascar.
Un moment de grâce.
C'est ça, presque. En plus, c'était tout blanc, ça faisait très ange, donc c'était vraiment ça.
Et ce voyage, est-ce que vous permettez, j'ai envie de lire un passage du livre. Donc, qui se trouve plutôt sur la fin. Alors que nous sommes assis sur les marches de l'entrée, une vieille dame s'approche de nous. Elle a les yeux vides, comme ceux des gens qui n'espèrent plus. C'est une mendiante. Stéphanie a à la main une bouteille de Fanta vide, dont elle cherche justement à se débarrasser. La vieille dame montre du doigt la bouteille en regardant Stéphanie d'un air interrogateur. Et celle-ci comprend qu'elle la lui demande. Les Malgaches réutilisent régulièrement les bouteilles en plastique. Ils les remplissent d'abord de nombreuses fois avec de l'eau du robinet. Puis quand elles commencent à s'abîmer, ils y mettent du miel ou de l'achar de légumes. Enfin, quand elle ne peut plus servir à un usage alimentaire, elle est encore utilisée comme récipient pour de l'huile de vidange ou tout autre fluide. La bouteille de Fanta étant particulièrement solide, elle peut être promise à une longue vie après sa première utilisation. Stéphanie tend la bouteille à la vieille mendiante de bon cœur. Nous n'en revenons pas alors de voir la vieille dame dévisser le bouchon de la bouteille et la porter à sa bouche pour déguster les dernières gouttes qui restent au fond. « C'est bon, » dit-elle, les yeux pleins de reconnaissance comme si elle découvrait ce nouveau goût. Peut-être n'en avait-elle tout simplement jamais bu, du moins probablement jamais plus de 2 ou 3 gouttes à la fois. Et dire que Stéphanie, quelques instants plus tôt, s'était presque forcée à finir la bouteille afin de pouvoir la donner, si elle avait su. Malgré la chaleur de l'air, toujours torride en ce début de matinée, un grand froid s'installe dans nos cœurs. Un mélange de honte, de notre statut de privilégié, et de désespoir face à cette situation qui nous échappe. La vieille dame semble hésiter tout à coup, ne plus être tout à fait sûre. Alors, par acquis de conscience, elle nous demande si la bouteille est à elle. Nous avons presque les larmes aux yeux lorsque nous lui répondons qu'elle peut la prendre. Elle la regarde comme un trophée. Fière et heureuse, elle la range avec 1000 précautions dans le petit panier qui regroupe toute sa vie. Il ne lui en faut pas plus pour illuminer sa journée. Elle repart d'où elle venait, nous laissant derrière elle sur le parvis, vide, comme jamais. Nous n'oublierons jamais son regard. Voilà les petits riens, les petites anecdotes qui font qu'on ne peut plus être le même après un voyage à Madagascar. C'est ça l'effet tropique dont parle Louise. Il est probable que lorsque nous rentrerons en France, un certain nombre de choses nous exaspéreront.
Et je crois que je suis toujours exaspérée depuis. Pour quand les gens se prennent la tête pour des bêtises ou des détails ou qui sont pressés dans la queue. Je crois que le plus dur, ça a vraiment été un autre retour parce qu'on est arrivé à Créteil. Alors forcément, il y a mieux comme choix. Et en plein hiver, donc il fallait que j'achète un manteau, je suis arrivée à Créteil Soleil. Et là, j'ai vu toute cette foule qui se pressait à la caisse, les gens qui râlaient parce que la caissière allait pas assez vite. Enfin, tout le monde qui était triste, qui faisait la tête, tout le monde qui courait dans tous les sens, qui nous bousculait si on pouvait pas, enfin si on n'allait pas assez vite. Et là, J'ai vraiment eu cette claque tropique dont on parle dans les livres, parce que je me suis dit, mais en fait, à Madagascar, j'aurais pris 2 heures pour m'acheter mon manteau, personne m'aurait rien dit, on aurait pris notre temps, on aurait trouvé un pousse-pousse, bon, j'aurais même pas eu besoin de manteau. Mais il y avait vraiment... le pire, ça a vraiment été ces deux femmes derrière dans la queue qui râlaient parce que la caissière arrivait, enfin, allait pas assez vite, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Déjà, pourquoi elles viennent à cette heure-là ? Enfin, tout me semblait tellement, tellement dérisoire par rapport à tout ce que j'avais vu avant que j'en ai pleuré en sortant du magasin en me disant plus jamais un centre commercial de style, plus jamais, quoi. Et c'est vrai que... Ben en fait oui, on est dans notre système capitaliste français là et on se rend pas compte de la chance qu'on a de toutes ces petites choses, on les savoure même plus. Et du coup, bon, alors la claque a été quand même moins grande. On a des amis qui sont partis 4 ans et demi à tour du monde. La claque a été moins grande, mais elle a été quand même très difficile. Et puis tout oui, j'étais vraiment, on était presque hypersensible quoi à tout pendant une longue période, et encore maintenant ça m'arrive de râler quand les gens se prennent la tête pour des bêtises, voilà, parce qu'il y a tellement pire ailleurs, donc
voilà. Oui, enfin, moi j'aurais envie de dire, est-ce que c'est vraiment une chance d'aller dans des grands centres commerciaux?
Non, c'est pas une chance. Oui. C'est ça, c'est pas une chance. Bon, j'avais que là. Oui. Voilà, mais c'était le même principe. La ville, moi, je connais pas plus que Madagascar à la base. Donc, Créteil, on m'a dit, bon, va à Créteil-Soleil, achetez ton manteau. J'aurais su, je suis jamais allée. Mais c'est vrai que, voilà, je me suis dit, bon, quitte à essayer d'expérimenter quelque chose, plus Madagascar que les grands centres commerciaux des grandes villes. Mais c'est vrai que oui, ça a été vraiment la claque du retour, quoi. Ça a été assez violent de passer de ce pays à la France, en fait. On n'avait pas ce recul, en fait. On n'avait pas ce recul, on était dans notre vie, on ne se rendait pas compte. Et c'est vrai que quand on s'ouvre à autre chose, ça peut être assez violent. Voilà, alors il y a des gens qui ont détesté, on connaît des gens très justement capitalistes, etc., qui ont détesté Madagascar, parce que forcément ça va à l'encontre de tous leurs préceptes, et puis des gens qui veulent absolument y retourner parce que ça devient presque une drogue, cet état d'esprit, cette façon de vivre, tout ça, c'est vraiment un autre monde, quoi. Et c'est vrai que quand on n'aime pas l'oppression du temps, l'oppression de la vie, etc., Madagascar, c'est vrai que c'est très bien pour ça, quoi. Après, il faut être armé, parce que voir un bébé mendiant dans la rue ou voir une vieille dame qui est contente d'avoir 3 gouttes de Fanta, ça nous a brisé le cœur au moins 15 fois dans le voyage. Parce que voilà, on se sentait vraiment démunis. Mais en même temps, je me dis, elle aura eu cette bouteille, elle aura eu ses 3 gouttes, et puis c'est toujours ça, quoi. Voilà, il faut apprendre à lâcher prise, et c'est vraiment Madagascar qui nous a aussi appris à se lâcher prise.
Donc vous avez changé votre manière de vivre quand vous êtes revenus?
Complètement. Bon, on avait déjà des sensibilités, voilà. On part pas à Madagascar sur un coup de tête, mais vraiment, ça nous a vraiment marqué au point de voilà, d'essayer de prendre notre temps, d'essayer d'avoir une vie différente. Surtout qu'avant de partir, on habitait Toulouse. Et après, c'était hors de question, parce que voilà, la ville, c'était terrible pour nous, donc c'était pas possible.
Alors, le temps, il est ici aussi, et si on veut faire une petite pause musicale, le moment est sans doute venu. Vous avez choisi un morceau, je vous laisse l'annoncer.
Oui, c'est Speed de Zazie. Mais ça correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire, d'ailleurs. Donc, c'est parfait.
Réveille
on se retrouve en compagnie de Stéphanie Chollot pour l'ouvrage qu'elle a coécrit avec Simon Brandly, Voyage en Terre Rouge. Et nous avons parlé du rythme de vie qui était très très différent à Madagascar. Et ici, voilà, le temps de l'émission, il est un peu standard sur une demi-heure, donc ça passe très très vite hein, quand on discute comme ça. Donc avant de refermer les pages de ce livre, on peut préciser pour les auditeurs que vous le portez, vous le faites vivre ce livre.
Oui, ben il sera sur les salons à Gaillac, à Montpellier, à Narbonne. Il sera en dédicace avec mon autre livre à la librairie Attitude d'Albi le 22 juin. Il sera à la librairie Coulier le même jour à Castres. Et du coup, oui, on le porte et on le porte aussi avec des conférences. On propose régulièrement des conférences avec les médiathèques, etc. Pour illustrer un peu tout ce qu'on dit et expliquer un peu pourquoi on parle de ce pays de cette façon-là. Voilà. Donc c'est important.
Alors à propos d'illustration, vous avez dit que vous aviez pris des milliers de photos.
Oui, oui. Et on prévoit, on verra en fonction du temps, mais on prévoit de faire un livre qu'avec nos photos, voilà, qui compléterait un peu celui-ci, qui est très très écrit.
Alors ça nous permet une subtile transition vers le dernier de vos publications, enfin la dernière publication, Contes urbains, contes anodins. Donc celui-là est à Toulouse.
C'est ça.
Vous pouvez nous en dire, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'images.
Oui, alors c'était complètement un projet complètement différent, un projet d'art croisé, avec de la photo et des textes un peu poétiques, qui nous donnent, alors toujours dans cet état d'esprit-là, une autre vision de la ville de Toulouse. Et on est parti justement sur cette idée de, ben moi j'aime pas Toulouse parce que c'est la ville, et le photographe m'a dit non mais moi j'adore Toulouse, alors je vais te montrer ma ville comme moi je la vois. Et on est parti sur ça, et on en a fait toute une histoire, un échange un peu à la Alice au Pays des Merveilles, avec plein de références à Saint-Aix, à Grand Corps Malade, etc. Et en fait, c'est une balade dans la ville de Toulouse pour avoir un autre point de vue.
Donc celui-là, c'est Contes urbains, contes anodins à Toulouse. Et on peut imaginer qu'il y en ait d'autres sur d'autres villes.
Alors il y en aura peut-être d'autres, oui. Alors j'aime pas trop parler des projets avant qu'ils existent.
Ah.
Mais oui, il y aura, je pense, des contes ruraux. Voilà, qui sera en réponse aux contes urbains.
Ah, très bien.
C'est ça. Voilà, voilà.
Très bien. Bon, donc on rappelle les dates, hein, divers salons en Occitanie au mois de mai.
C'est ça.
Et pour les gens d'Albi, la date la plus proche, c'est le 22 juin avec une dédicace.
C'est ça, à la librairie Attitude.
Ah, voilà, et pour ceux de Castres,
librairie Coulier.
Donc à la même
matin
date.
Et l'après-midi.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Radio Albigès. Donc, on a parlé du livre Voyage en Terre Rouge et on a aussi un peu évoqué rapidement, mais donc on y reviendra peut-être dans une autre émission, des contes urbains, contes anodins, et on attend donc les contes ruraux qui feront un peu écho à celui-là.
C'est ça, c'est
voilà.
Ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée à vous. Alors surtout, je remercie Paul qui était notre technicien aujourd'hui. Voilà. Puis n'hésitez pas, si vous avez des réactions, à téléphoner à la radio, à laisser un petit message. Voilà, Alcop Québec.
Alcop Québec.
Lire. À quoi ça sert finalement?
À quoi bon?
Ouais, franchement, enfin, quand même, ça fait un peu voyager.
Et puis, ça fait rêver.
Ça ouvre les fenêtres et l'esprit.
Ça rend plus fort.
Ah ouais, tu crois vraiment?
Non, je suis pas sûr sur celui-là.
Peut-être ça élargit la vision qu'on peut avoir du monde, tu crois pas?
Ah bah ça c'est sûr.
Ouais. Et puis, tu crois que ça rend plus beau?
Eh ben je sais pas, il faudrait essayer peut-être.
Ah, il faut essayer. Mais surtout, lire des livres.